France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, en direct jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste éditorialiste et à la tête de la nouvelle revue L'Audace, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et en particulier aujourd'hui sur la victoire de Zohran Mamdani à New York. Le nouveau maire est-il pour Donald Trump l'opposant idéal ? On se posera la question. Et puis pour le débat, à deux jours du début d'une COP capitale à Belém au Brésil, nous recevrons un économiste, professeur à Sciences Po, spécialiste des inégalités, qui signe aux éditions du Seuil « Énergie et inégalités, une histoire politique », un livre dans lequel l'auteur considère que sans remise en question d'une réappropriation collective de l'énergie, il sera impossible de réduire les inégalités. Mais doit-on poser comme priorité la réduction des inégalités au moment où notre planète brûle? C'est l'une des questions sensibles que nous poserons à notre invité, l'économiste Lucas Chancel, mais pour leur place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour. Bonjour.
Un mot Gilles, bien sûr, on l'attendait beaucoup, votre éditeur aussi, mais aussi nous les lecteurs. Votre nouveau livre, il vient de sortir, il s'appelle « La démocratie à l'état gazeux », livre dans lequel, chez Flammarion, dans lequel vous êtes fait un peu petit chimiste pour analyser notre démocratie. En tout cas, j'ai découvert en vous des compétences scientifiques que j'ignorais, si.
Moi aussi.
Moi aussi. On va en tout cas les découvrir. Mais on va aussi aller, pour commencer ce duel, du côté d'une autre démocratie explosive, hein, parce que je crois que c'est l'esprit de l'état gazeux. Un duel du côté de New York, où mardi avait lieu l'élection du nouveau maire. Le favori l'a emporté, le jeune démocrate socialiste Zohran Mamdani, et il a pris la parole en ciblant son adversaire.
In this moment of political darkness, New York will be the light.
En cette période d'obscurité politique, New York sera la lumière. Si quelqu'un peut montrer à une nation trahie par Donald Trump comment le vaincre, c'est bien la ville où il a grandi. Et s'il est bien une façon de terrifier un despote, c'est en démantelant les conditions qui lui ont permis d'accumuler du pouvoir. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter Trump, mais aussi d'arrêter le prochain. Alors Donald Trump, parce que je sais que tu nous regardes, j'ai trois mots pour toi. Augmente le volume.
Turn the volume up.
Natacha, on l'entend, ce nouveau maire, c'est un style, un ton. Est-ce que c'est le miroir inversé de Donald Trump ?
Alors, c'est en tout cas, en effet, quelqu'un qui a parfaitement compris les évolutions des démocraties modernes, telles que Gilles nous les explique admirablement, et qui utilise cela de façon très intelligente. Pour autant, il faut essayer, je pense, de prendre un tout petit peu de recul pour regarder cette élection. Oui. Mamdani a emporté l'élection de façon indéniable avec 50,4%, son adversaire Andrew Cuomo 41,6%, et le républicain soutenu par Trump n'a fait que 7%. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez déjà quelque chose qui était assez bancal du côté des républicains.
Même si au dernier moment, Trump avait plutôt soutenu Cuomo, sachant que républicain n'avait aucune chance de l'emporter face au diable.
Cuomo se présentait de façon indépendante. Oui. Et donc ils ont...
Les démocrates.
Dans une ville, New York, qui avait voté à 68% pour Kamala Harris l'an dernier. Donc c'est tout ça pour expliquer que, en fait, les métropoles sont des lieux assez particuliers où est en train de se passer quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire l'émergence de candidats qui, en effet, incarnent la diversité de ces métropoles, incarnent une nouvelle vision de cette mise en avant de la diversité. On pense évidemment à Sadiq Khan. Donc c'est un
à Londres.
C'est un symbole indéniable, même si, premier point, Zohran Mamdani n'est absolument pas le candidat wokiste qu'une part de la droite veut voir, une part de la droite française notamment veut voir. Absolument pas. Sa campagne, il l'a ancrée sur les questions économiques et sociales. Et c'est ça qui était extrêmement intéressant. Avec une limite toutefois, qui est que justement, la gouverneure démocrate de l'État de New York est plutôt dans le camp des démocrates, on va dire assez soft, et modéré, donc risque de bloquer toute une part du programme, puisque le maire de New York n'a pas la main. Mais en tout cas,
sur la question
une chose
fiscale,
est sûre,
en effet,
il ne suffit pas d'être musulman, d'origine ougandaise et indienne, et d'être un militant, enfin un défenseur de la cause palestinienne depuis longtemps, pour être un candidat de l'extrême-gauche radicale, puisque justement, pendant sa campagne, il n'a pas mis en avant cette dimension-là. Et c'est ce que visiblement beaucoup, il a mis, d'ailleurs, autre point intéressant, même dans sa vision économique, il y a à la fois la taxation des riches, la limite des loyers, mais il y a la défense des petits commerçants, etc. C'est-à-dire, c'est pas du tout une caricature. Et ce qui est dommage, c'est le délire interprétatif de ce côté-ci de l'Atlantique, je le disais, de la part de la droite et de l'extrême droite, mais du côté de LFI, on y voit une victoire de la gauche LFI, ça n'est, je viens de le montrer, pas du tout le cas. Et quant à Bernard-Henri Lévy dans Le Point, il explique « sa victoire met en péril les juifs et encourage les totalitaires partout dans le monde ». Donc quand je parle de délire interprétatif, je pense en effet qu'il va falloir essayer de regarder les choses calmement.
Est-ce que Gilles Zoran Mamdani, c'est une leçon à retenir pour la gauche ici ?
Je repars de la formule de, pour répondre à votre question, de la formule de Natacha sur le délire interprétatif, parce qu'en réalité, ça m'a beaucoup frappé. On a une surenchère dont le but est à chaque fois de nourrir une grille de lecture préétablie, oui, me faisant penser à cette formule d'Oscar Wilde, disant qu'il ne lisait jamais les livres qu'il devait critiquer parce qu'il ne voulait pas se laisser influencer. Je crois qu'il faut distinguer les leçons pour les États-Unis, oui, et les leçons pour la France. Pour les États-Unis, on est dans un contexte quand même qui pèse beaucoup, où on va arriver au 40e jour de shutdown, c'est-à-dire d'un budget fédéral qui n'a pas été voté, et à la différence de la France, avec des conséquences concrètes, qui sont des conséquences lourdes, avec des fonctionnaires qui ne sont pas payés, avec des aides sociales qui ne sont pas versées, et dont les Américains font porter à Donald Trump et aux Républicains la responsabilité la plus éminente. Deuxièmement, un contexte dans lequel vous avez maintenant moins de 40% des Américains qui disent approuver la gestion économique de Donald Trump, et où, chiffre que j'ai découvert cette semaine, pour la première fois aux États-Unis, on investit plus pour les espaces de travail des machines que pour ceux des salariés, et on investit plus pour les data centers que pour les bureaux. Et je crois que ce contexte-là a pesé, et il explique ce qui est au moins un triple revers pour Donald Trump, parce qu'on a parlé de New York, mais il n'y a pas que New York. C'est la victoire des démocrates comme gouverneurs, notamment en Virginie et au New Jersey. C'est le référendum sur le redécoupage en Californie, et c'est beaucoup d'autres élections locales. Et c'est intéressant de voir les questions, à la fois les questions qui sont posées, c'est-à-dire que vaut le Parti républicain sans Donald Trump, et questions que les républicains se posent eux-mêmes pour essayer d'expliquer cette défaite. Est-ce que c'est parce que Donald Trump a été trop républicain ou trop MAGA ? Et de la réponse à cette question va dépendre aussi la suite. On saura après si c'est un retournement, mais peut-être que c'est le point de retournement dans l'opinion et de la reconquête pour les démocrates. En tout cas, je trouve que la formule de Piotr Smolar dans Le Monde, disant « les funérailles de l'ère Biden sont terminées », je trouve est intéressante. Il reste maintenant aux démocrates à faire en sorte que de nouvelles fiançailles puissent se nouer. Et puis, l'autre dimension que vous avez évoquée l'un et l'autre, qui sont les leçon pour la France, est-ce que c'est un signe de retournement, pas seulement pour les, oui, États-Unis, mais de retour de la gauche? Et là, je prolonge ce que disait Natacha. Je voulais presque vous poser une devinette qui est... Mais Natacha a un peu levé le voile, donc ça va être trop facile. Quels sont les trois points communs entre Paris, Londres, Rome, Varsovie, Budapest, Bruxelles, Vienne, Reykjavik, Stockholm, Riga, Ljubljana? Ce sont des capitales européennes. Elles sont toutes dirigées par la gauche ou par les écologistes, oui, dans des pays voilà, qui sont tous ou presque dirigés par la droite. Et donc, il y a un phénomène urbain qui serait intéressant d'analyser.
Métropolitain même.
Métropolitain, oui. L'ouverture sur l'extérieur, le métissage. Ces grandes villes sont souvent de gauche dans des pays qui sont souvent de droite. Et là, Natacha l'a dit, Zoran Mamdani a gagné dans une ville dans laquelle les Républicains sont totalement marginaux.
Mais est-ce que la lecture, elle est sociale ou elle est sociétale? Parce que c'est des villes aussi où il est compliqué de se loger, de se déplacer. Donc il y a aussi des problèmes qui ne sont pas des problèmes liés à l'identité et à la religion de celui
Absolument.
Qui est élu.
C'est pour ça que je termine par là. C'est dans quelle mesure l'élection de Zoran Mamdani peut servir de modèle de reconquête pour la gauche. Et il y a, je crois, trois points. L'enthousiasme, on l'entendait dans le son du début, c'est-à-dire qu'il y a un style, quelque chose de positif et d'énergique. L'engagement, il a réussi à créer une mobilisation, les chiffres sont spectaculaires et on oublie ça, une campagne, ça se fait sur le terrain. 100 000 bénévoles, 4 millions d'appels passés, 3 millions de portes auxquelles on a frappé. Et enfin, l'empirisme, c'est-à-dire que Zoran Mamdani a mis à l'agenda la vie des gens dans leur dimension la plus concrète.
Oui. Un mot là-dessus ? Très rapidement, un mot. L'enthousiasme indéniable, puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il n'y avait pas eu autant un maire élu avec autant de voix depuis 1969, c'est très important.
Oui.
Deuxième point, c'est le paradoxe de ces métropoles, et New York en est la quintessence, c'est-à-dire que toute la city, les milliardaires, les banquiers, se sont évidemment opposés à lui pendant la campagne et sont en train de se rallier en expliquant qu'après tout, tout ira bien. Mais tout le problème est que sans doute, ils ont anticipé le fait que l'application concrète de ce programme va être extrêmement difficile.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Est-ce que le fait d'avoir 30 ans me discrédite pour me lever le matin avec l'ambition de faire du bien à mon pays, d'apporter des réponses à mes compatriotes? Pardon de ne pas avoir pantouflé pendant 30 ans de vie politique au Sénat. Je ne vais pas m'inventer 30 ans de pantouflage au Sénat que je n'ai pas. En revanche, je crois que la jeunesse m'accorde une énergie, une fougue, une connexion à ce que vivent aujourd'hui les défis du pays et surtout une volonté intransigeante de connaître et de peut-être découvrir un jour la France qui va bien, dont m'ont parlé mes parents et mes grands-parents, et que je n'ai jamais connue, eh bien, je crois que oui, et je me battrai tous les jours pour ça.
Jordan Bardella, président du Rassemblement National, invité de BFM mercredi, un nouveau livre, des sondages présidentiels stratosphériques, un discours, on vient d'entendre, bien calibré. Est-il sur orbite, Jordan Bardella, Gilles ?
C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Il y avait un risque pour le Rassemblement National, c'est que, compte tenu du procès en appel de Marine Le Pen, cette année soit une année suspendue, une année empêchée et peut-être même une année de division. Et il y a deux choses qui me frappent dans la semaine que l'on vient de vivre. La première, c'est l'offensive Bardella, dont on vient d'entendre un des extraits, dont le point de départ est un livre. Alors, Régis Debré faisait la distinction entre les livres qui sont faits pour être lus et les livres qui sont faits pour être là. Là, on voit que c'est un livre qui sert de levier pour une tournée médiatique. Et la tournée médiatique est spectaculaire, parce que là, vous avez parlé de BFM, mais en l'espace de quelques jours, grande interview dans le journal du dimanche, interview sur CNews, sur BFM donc, sur LCI, tribune dans le Figaro, tribune, on ne l'a pas vu dans The Economist. Donc on voit que le livre est encore un levier pour compléter, c'est pas seulement TikTok, il faut aussi dans la construction d'un candidat à la présidentielle, l'écrit reste quelque chose d'important.
C'est comme l'album pour faire des concerts, quoi.
Et puis l'affirmation personnelle, pour la première fois dans son livre, contrairement au précédent, Marine Le Pen n'est quasiment pas citée. Et puis on voit les inflexions stratégiques, l'évocation d'un accord de gouvernement avec les Républicains, des signaux pour le patronat, c'est pas par hasard qu'il fait sa tribune dans le Figaro sur la rigueur budgétaire. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'offensive Bardella. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est la contre-offensive. Parce que peut-être pour la première fois, une contre-offensive de la droite. J'avais parlé ici des convergences entre les Républicains et le Rassemblement National. Cette semaine, on a vu des voix de droite. Je pense à Jean-François Copé. Je pense à Xavier Bertrand, à Dominique de Villepin, à Gérald Darmanin aussi dans les Échos. qui commence à résister à cette offensive. Alors, on peut en analyser les registres. Gérald Darmanin a utilisé le mot de takia, et c'était intéressant. La takia, c'est dans son interprétation contemporaine l'idée d'une stratégie de dissimulation qui est pratiquée notamment par les mouvements djihadistes, avec cette idée qu'il a un double discours lorsqu'il s'adresse au patronat ou à The Economist, et lorsque ses troupes votent à l'Assemblée nationale. Et pour ma part, j'ai vu une nouvelle contradiction émergée qu'on n'avait pas vue jusque-là, je trouve. Dans The Economist, Jordan Bardella évoque le rachat par la BCE, la Banque Centrale Européenne, de la dette française. Et dans le même temps, ça c'est pour l'Europe, dans le même temps en France, il prône la réduction, voire la suppression de la contribution française à l'Union Européenne. On peut défendre l'un, on peut défendre l'autre, difficilement, mais défendre les deux en même temps, c'est un peu compliqué.
Natacha, est-ce que Jordan Bardella est à un moment, comme je le disais, d'être mis en orbite ou d'être, parce qu'il est aussi en orbite, face à ces contradictions, celles que vient de nommer Gilles notamment?
Oui, petite parenthèse sur en effet ce qu'on a entendu et qui a été un très bel exercice de communication politique, ne serait-ce que dans le ton, l'élocution, on sent qu'il y a eu du travail.
Oui.
Simplement,
pour ceux qui le suivent depuis des années, ça c'est une évidence.
Je pense que l'interrogation que peuvent avoir certains face à son parcours n'est pas qu'il n'est pas pantouflé pendant 30 ans au Sénat, mais qu'il est pantouflé pendant toutes ces années au Rassemblement National, ce qui revient à peu près au même. Je pense que dans la définition du mot apparatchik, là, prend tout son sens. Simplement, ce qui me semble intéressant, et pour prolonger ce que disait Gilles, c'est qu'en effet, cette contre-offensive d'une partie de la droite révèle tout le problème que pose l'objet Rassemblement National en ce moment. Vous avez à droite une stratégie qui consiste à dire « Attention, ils sont en train de vous tromper, ces gens-là ne sont pas libéraux. Ils sont communistes, ils sont marxistes, ils ont un programme de gauche. » Ce qui, d'une certaine manière, est une sorte de cadeau fait au Rassemblement National. C'est-à-dire que l'intérêt, en tout cas, c'est de faire ressortir que tout le sujet va être de savoir de quel côté va pencher le Rassemblement National, parce qu'il y a en effet deux lignes. Il y a deux lignes qui sont totalement contradictoires et qui peuvent passer inaperçues dans une dynamique de victoire, mais qui existe entre Marine Le Pen et Jordan Bardella sur la question de l'union des droites, puisque Marine Le Pen continue à ne pas se dire de droite et à toujours rappeler qu'elle a historiquement et toujours été opposée à l'union des droites. Or, Jordan Bardella est sur une ligne qui aujourd'hui est évidemment radicalement opposée. Et derrière cela, la question, c'est celle de l'identité économique du Rassemblement national. Or, cette identité économique, elle compte, Gilles a cité un point de contradiction qui est fondamental, mais je veux dire, la question de savoir si le Rassemblement national s'adresse aux Français, notamment les plus modestes, ou s'adresse aux entrepreneurs comme la droite, et quand je dis les entrepreneurs, je veux dire par là non seulement les petits patrons de PME, mais un pouvoir financier que le Rassemblement national prétendait combattre jusqu'à présent, c'est quelque chose qui compte. Encore une fois, je termine juste, la dynamique actuelle a tendance à faire passer tout ça sous le boisseau, c'est une habitude. Dans ces cas-là, ça se révèle, ça explose à un moment.
Gilles, un mot ?
Oui, un mot sur est-ce qu'il est en orbite. Je trouve, d'une certaine manière, on peut faire le parallèle aussi avec ce qui s'est passé aux États-Unis dans cette démocratie à l'état gazeux dont je parle dans l'essai. Une de ses propriétés, c'est que la mobilité électorale y est très forte. Zoran Mamdani était inconnu, il faisait 1% il y a quelques mois, il a été élu. Quand on regarde, le Figaro a fait une étude très intéressante cette semaine, regardant où on en était dans les intentions de vote 18 mois avant une élection présidentielle, depuis un certain nombre d'élections, eh bien on voit qu'en 18 mois, il y a des écarts de plus de 10 points pour le candidat qui était en tête entre le score à l'arrivée. Donc il est pas en orbite. Là, pour l'instant, il y a un point qui peut-être est un point haut.
Et puis, je pensais d'ailleurs à l'orbite. Ce matin, Thomas Pesquet était sur l'antenne d'Inter. Quand on est en orbite, en fait, on monte très vite, mais après, on ne monte plus. On tourne.
Oui, on tourne en rond.
On tourne en rond.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
On oublie que Shein, c'est quand même une marque qui est devenue la cinquième marque préférée des Français. C'est 25 millions de clients en France. Et on peut leur faire tous les reproches sur l'enjeu de l'éthique, des petits, la condition de fabrication, la marketplace, dont on a beaucoup parlé dernièrement, notamment avec les poupées. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est des Français qui, pour certains, n'ont pas le choix d'aller acheter ailleurs. C'est juste des gens qui aiment la mode, pardon de le dire, hein, mais qui n'ont pas les moyens de dépenser des milliers d'euros tous les mois pour aller faire du shopping.
Le désormais très célèbre Frédéric Merlin, l'homme par qui le scandale est arrivé cette semaine, le patron du BHV qui a accueilli Shein dans le grand magasin, une première pour la marque chinoise qui a fait son succès en ligne. Natacha, de quoi le succès de Shein est-il le nom? Et en miroir, quelle défaite met-elle en lumière? Met-il ce succès plutôt?
Je commencerai en disant que quand j'ai souligné la question de l'ambiguïté qu'il y a à soutenir les entrepreneurs au sens large, c'est qu'il y a, entrepreneurs et entrepreneurs. Il y a ceux qui produisent sur le sol français et qui se donnent le mal de créer de la richesse sur le sol français. Et puis il y a des gens qui peuvent se qualifier d'entrepreneurs, comme Frédéric Merlin, par exemple. Et on entend dans la voix de ce jeune homme qui, visiblement, beaucoup d'ambition, qui est soutenu, apparemment ami du couple Sarkozy, qui réussit à lever 96 millions grâce notamment à la BPI et à d'autres banques, quand autant de petits patrons ont du mal à être financés par des banques en France. Bon, il est sans doute très très fier de ce qu'il est en train de faire, mais on va rappeler une chose. En ce moment, il y a le salon du Made in France, qui rassemble des entrepreneurs, des producteurs et des artisans, industriels, etc., qui se donnent le mal de, je le disais, de produire, malgré toutes les difficultés qu'il y a, sur notre sol, pour respecter un modèle social. Parce que ce que ne dit pas Frédéric Merlin, voilà, c'est que, en effet, il y a des millions de Français qui achètent sur une plateforme comme Shein, sans avoir à l'esprit, parce que notre démocratie est ainsi faite qu'on évite d'informer les citoyens suffisamment, sans avoir à l'esprit qu'en faisant cela, en fait, eh bien, ils votent pour un système économique qui risque de les faire travailler jusqu'à 67 ou 70 ans. Parce que c'est ça, le sujet. C'est-à-dire qu'ils votent, outre le fait que les produits qu'on trouve sur cette plateforme ne respectent aucune des normes, même des normes de santé. C'est-à-dire qu'il y a des produits dangereux dans ces vêtements, quand on les contrôle, pour une grande partie d'entre eux. Mais outre cela, c'est une question de choix du modèle économique. Simplement, ce qui me gêne profondément dans ce débat, c'est qu'on voit surgir cette question-là parce que Shein arrive au BHV. Enfin, Shein détruit l'industrie textile, enfin ce qui restait d'industrie textile, et surtout maintenant le commerce, depuis déjà longtemps. Nos politiques n'ont pas agi. Et là, on a commencé la semaine avec un Roland Lescure qui nous annonce que le gouvernement va agir et qu'une procédure administrative va suspendre le site de la plateforme. Puis finalement, on termine la semaine avec l'idée que c'est la procédure qui est suspendue. Voilà. Et alors, ce qui n'empêche que Laurent Lescure...
sous surveillance, dit-on.
Voilà, Roland Lescure continue à nous dire « nous serons sans merci, le Far West c'est terminé ». En fait, le problème, c'est que quand un patron de PME en France ne respecte pas la loi, il paye des amendes et il est fermé. Là, on laisse ce site sous surveillance. Et derrière, la Commission européenne explique qu'il est hors de question d'agir, puisque ce serait contraire aux droits européens. Oui, c'est-à-dire c'est la Chine, on va faire le décryptage, c'est la Chine. Or, l'Allemagne a besoin de vendre des berlines en Chine, donc la Commission européenne considère qu'on ne va pas se fâcher avec la Chine. Je le dis un peu crûment, mais c'est exactement ça qui se passe, et c'est ça que nous payons quand nous sommes à l'Assemblée nationale en train de parler d'un budget. C'est le fait que nous n'avons plus les moyens, puisque nous favorisons des gens qui nous détruisent.
Gilles, quelle réaction vous avez eue quand vous avez vu les queues devant le BHV pour aller acheter des produits Chine? En tant que citoyen, comment vous avez réagi à ces images?
Eh ben, je vais exactement terminer par ça.
Alors j'attends.
Shein est une plateforme chinoise qui ne vend pas en Chine,
oui,
dont le succès et spectaculaire dans le monde et en France, les chiffres sont éloquents, et dont le succès est controversé. Et on a eu cette semaine, je trouve, une pièce 100 fois rejouée. On a eu les arguments qu'on vient d'entendre de Frédéric Merlin, liberté de consommation, défense du pouvoir d'achat et des catégories populaires. Et d'un autre côté, à juste titre, concurrence déloyale, atteinte aux droits du travail, aux normes techniques, sanitaires, environnement, les risques pour l'emploi, le commerce. On voit à quel point Shein aimante les clients et les débats, c'était vrai avant, mais c'est là où je rebondis sur ce que disait Natacha. Pourquoi, que s'est-il passé maintenant, cette semaine?
Voilà.
Et je voudrais, pour y répondre, partir de la thèse de Benoît Helbrun, qui est un des grands spécialistes des marques et de la consommation, et qui a avancé une idée qui est peut-être une idée surprenante, qu'il voit Shein comme un symbole du totalitarisme chinois. C'est-à-dire un système dans lequel il n'y a pas de limite, dans lequel il n'y a pas de surmoi, et dans lequel on essaye de faire disparaître l'esprit critique. On pourrait compléter en disant que c'est un symbole de l'hégémonie de l'imaginaire capitaliste, dans lequel la consommation est devenue une espèce de religion de substitution, et où le consommateur recouvre non seulement le citoyen, comme on l'a beaucoup dit cette semaine, mais aussi le salarié. Et partant de là, et revenant sur la question pourquoi cette semaine, mon hypothèse c'est que parce que nous sommes passés du numérique au physique, qu'on est passé du site au magasin, et que dans le numérique, dans l'espace numérique, vous êtes dans une espèce de tête-à-tête entre l'homme et la machine, et dans une espèce de sidération. Lorsque on rentre dans l'espace physique, le voile se lève, la réalité s'impose et le collectif reprend corps. Et je trouve que c'est intéressant parce que on voit ce paradoxe que l'objet de l'installation, de l'ouverture, c'est la première ouverture d'un magasin physique de Shein, c'était précisément d'essayer de normaliser Shein en répondant aux critiques sur la concurrence déloyale, et que l'effet de cette ouverture va sans doute être, avec les polémiques justifiées de cette semaine, de le diaboliser davantage encore.
La matérialité de Shein, d'ailleurs, j'étais moi très très surpris par une chose, si on croit les chiffres de Frédéric Merlin, 25 millions de consommateurs chinois en France, et j'entendais, c'est un signe de déconnexion terrible, des responsables politiques ne sachant même pas comment se prononcer le nom de cette marque. Enfin, ça raconte quand même quelque chose d'impressionnant. Natacha.
Oui, bien entendu. Pour prolonger, là, ce que disait Gilles est très important, c'est la question du rôle des algorithmes là-dedans. Parce que, en fait, le Shein fonctionne comme beaucoup d'entreprises chinoises, c'est-à-dire on éradique la concurrence en faisant du dumping, en nettoyant le terrain, et ensuite, on vient s'implanter directement sur place. C'est-à-dire, on vient construire un jour, ils viendront construire des usines en France, peut-être, mais pour l'instant, ils sont dans l'éradication du commerce pour avoir le monopole. C'est une démarche monopolistique, mais qui est servie par des algorithmes, qui est servie, et c'est là où la question de la liberté se pose. C'est-à-dire que venir dire que c'est la liberté des consommateurs de choisir, quand il y a du marketing ciblé par des algorithmes, ce n'est pas
qui
la liberté.
Anticipe le désir.
Mais bien sûr, et le point où je veux en venir, c'est que le rôle de la puissance publique, française et européenne, elle est de préserver la souveraineté pour préserver une authentique démocratie. Or, ça nécessite une souveraineté industrielle, mais aussi une souveraineté numérique, puisque nous voyons bien que ça passe par des réseaux sociaux que nous ne maîtrisons pas non plus. Donc il y a un travail plus globalement à faire pour reprendre la main. Ça passe par la défense réelle des producteurs. On va rappeler peut-être que la Chine vient de signer un accord avec Temu, la Poste vient de signer un accord avec Temu.
Qui est une plateforme.
Qui est une autre plateforme, l'équivalent.
Qui ne produit pas.
Voilà. Mais qui envoie le même nombre de cochonneries.
De petits colis, qui
peuvent venir sans tarif douanier parce que l'Union européenne a supprimé les droits de douane depuis 2010 pour ne pas payer de douanier. Et dernier point, la Poste a offert pendant longtemps un tarif préférentiel sur les colis parce qu'elle considérait que la Chine était un pays en voie de développement. On marche sur la tête.
On marche sur la tête, mais vous avez évoqué la notion de souveraineté numérique. On va évoquer celle de souveraineté énergétique avec notre invité. Place au débat du grand face-à-face.
Le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Lucas Chancel.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris au sein du Centre de recherche sur les inégalités sociales et co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris. Avant d'en venir à votre livre, tout de même une question sur Chine. Et après, promis, on creuse la question des inégalités et de l'énergie, mais comment l'économiste que vous êtes voit ce sujet, d'autant que vous êtes un économiste qui travaille sur les inégalités sociales. L'argument de dire il faut aussi permettre aux gens qui n'ont pas les moyens d'acheter les mêmes produits que les autres. Comment est-ce que l'économiste des inégalités l'entend, cet argument ?
Du point de vue du consommateur, entre un jean à 10 euros produit vendu par Chine et un jean à 50 euros, la question, elle est vite répondue. Mais la question plus fondamentale que ça pose, c'est celle du cadre commercial qui permet cela,
oui.
Qui permet une concurrence totalement faussée, du fait de droits sociaux, de droits environnementaux non respectés de la part du pays exportateur, en l'occurrence la Chine. Et ça pose aussi la question des capacités de contrôle aux frontières, de contrôler ces produits qui sont importés. Quand on n'a pas ces capacités de contrôle, quand on a un cadre commercial qui permet ces échanges-là, sans véritablement penser les logiques de concurrence en réalité faussée, on en arrive à ces situations. Et je pense que ça pose effectivement la question, pas seulement du côté du consommateur, pour avoir les prix les plus bas possibles, mais la question, évidemment, la question de la souveraineté de la production. Et en réalité, c'est assez proche sur les questions énergétiques.
On y vient, justement. Vous signez ce livre, « Énergie et inégalité, une histoire politique » aux éditions du Seuil, livre par lequel vous poursuivez, en vous concentrant sur l'énergie, votre travail, commencé avec votre thèse, qui articulait déjà les inégalités de revenus aux inégalités environnementales. On va vous demander en quoi la question de l'énergie est indissociable des inégalités, en quoi réduire les inégalités ne peut, selon vous, passer que par une remise en question de la gestion politique de l'énergie. Mais pour commencer, autre actualité oblige, je vous propose d'écouter Lula, le président brésilien qui accueille le monde à Belém, dans le nord du Brésil, pour la COP30 qui ouvre ses portes lundi.
La Terre ne peut plus supporter le modèle de développement basé sur l'utilisation intensive de combustibles fossiles qui a prévalu au cours des 200 dernières années.
Question toute simple, Lucas Chancel. Est-ce que le principal enjeu de cette COP et des COP, c'est la remise en question des énergies fossiles sans laquelle point de salut pour le climat et donc pour la planète ? C'est ça ce qu'il faut regarder ?
Oui, c'est la question de la remise en cause et de la sortie totale des fossiles. Mais c'est
total.
Absolument, il faut sortir des fossiles d'ici à 2050, d'ici à 2070, selon les prévisions, pour décarboner totalement l'économie mondiale. Mais la question des COP, c'est aussi un enjeu géopolitique. Et c'est ce qu'on voit. Là, on est en train de voir des acteurs, des chefs d'État qui se positionnent pour porter un modèle énergétique, un modèle économique et derrière un modèle de société. Et ce livre, c'est une enquête sur les liens complexes entre inégalités et enjeux climatiques. Avec l'idée que ces liens complexes sont générateurs de blocage et nous empêchent d'avancer et d'accélérer la transition. Et pour accélérer, je pense que c'est utile de s'intéresser au passé. Et donc il s'agit ici d'une histoire des rapports de pouvoir et des inégalités de richesse en lien avec l'usage de l'énergie, fondée sur des données nouvelles. Et moi, il y a deux choses qui m'ont frappé dans cette enquête. La première chose, c'est à quel point l'usage de l'énergie structure les hiérarchies sociales, structure les inégalités de richesse depuis toujours. Et quand on va changer de source d'énergie, en fait, on va venir transformer ces structures de pouvoir.
Et vous dites que c'est le même mot « power » en anglais pour l'énergie et pour la puissance, ce qui est quand même intéressant, je trouve.
Absolument, et donc ça c'est une citation de Matthew Bolton, qui est l'associé de James Watt, qui va transformer le monde des techniques avec sa machine à vapeur, et qui dit « Moi je vends ce que le monde entier désire, la puissance, power en anglais, et joue sur ce double sens du mot, puissance mécanique, mais aussi puissance politique. » Et c'est vraiment cette interaction que j'essaie de comprendre. Et le deuxième élément central, ou enseignement central, c'est à quel point les sociétés ont le choix d'organiser le contrôle de l'énergie de différentes manières.
Alors on va y venir parce que vous articulez déjà en fait deux échelles. L'échelle mondiale, géopolitique, et l'échelle nationale, voire même locale. On verra tout à l'heure un exemple de production photovoltaïque par des citoyens qui reprennent en charge leur propre destin énergétique, voir si c'est pour vous la solution, si c'est à cette échelle-là que ça se passe. Mais restons d'abord à l'échelle globale et l'échelle mondiale. Pardon, mais que répondez-vous à ceux qui considèrent que le développement de certains pays a été permis par l'énergie fossile? C'est le cas, par exemple, des pays du Moyen-Orient. Et même Lula, il y a quelques semaines, on vient d'apprendre au Brésil qu'il y avait des champs nouveaux pétroliers offshore qui allaient être exploités au large de l'Amazonie. Et il dit, ça permettra demain de financer les énergies renouvelables, mais aussi de lutter contre les inégalités.
Oui, mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, si vous voulez, depuis 15 ans, c'est la baisse spectaculaire du prix des renouvelables.
Okay.
Et dans de nombreux pays, les renouvelables sont à parité, c'est-à-dire que le coût de production d'énergie à partir de renouvelables est au même niveau que le coût de production d'énergie à partir de sources fossiles. Donc ça veut dire que la question c'est est-ce qu'on permet aux pays en développement, aux pays à bas revenus, d'accéder à ces alternatives ? Et donc d'accéder à des financements, d'accéder à du capital pour changer de technologie. Et donc là ça pose un
Parce que ça coûte cher en revanche. Le passage d'une technologie à l'eau. Vous dites c'est le même coût, mais pour passer du pétrole à l'éolien, ça coûte
tout
cher.
Tout à fait. C'est pas la même structure de coût. C'est-à-dire que dans un cas, on a besoin d'investissements massifs et ensuite la production est moins chère. Et dans l'autre cas, on a des coûts d'investissement qui sont plus faibles. Et ensuite, on va devoir dépenser un peu davantage dans les dépenses d'opération. Et donc, tout ça, ça pose effectivement la question d'accès pour les pays émergents, pour les pays à bas revenus, à des marchés de capitaux. Les pays émergents, on sait, et les pays en développement s'endettent à des taux très élevés, 8, 9, 10% voire plus, donc ont du mal à accéder à ces technologies bas carbone. Et là, ça pose la question plus générale du cadre du système financier international. Est-il compatible aujourd'hui avec cette transition dans les pays pauvres, avec cette accélération de la transition ? Je pense que non.
Gilles.
Oui, prolongement sur la COP. Vous avez évoqué à raison la baisse substantielle du prix des renouvelables. Quel bilan on peut faire de 10 ans de COP sur les questions énergétiques ? On a l'impression qu'il y a eu à la fois un développement et un développement considérable dans le monde des énergies renouvelables, mais que dans le même temps, les énergies fossiles continuent à être très puissantes, donnant raison à la thèse de Jean-Baptiste Fressos qu'on avait reçue ici dans un livre qui s'appelait « Sans transition » en disant qu'on ne passait pas d'une énergie à une autre mais que ça s'additionnait. Donc quel bilan vous faites et quel est, sur les questions d'énergie, l'enjeu de cette COP qui s'ouvre à Belém ? Dans la précédente, à Bakou, il y avait un gros enjeu qui n'était pas que symbolique autour de l'abandon ou pas des énergies fossiles. Est-ce que là, il y a un sujet sur l'énergie qui est au cœur de cette COP ?
Alors vous citiez Jean-Baptiste Fressos qui met en avant cet empilement des sources d'énergie les unes sur les autres depuis deux siècles. Du charbon, ensuite on prend du pétrole, on rajoute là-dessus du gaz, on va mettre du nucléaire. Et au niveau mondial, c'est effectivement ce que l'on observe.
C'est-à-dire la note de bas de page, c'est qu'en pourcentage, on peut avoir le sentiment qu'il y a une transition. En réalité, en quantité, ce n'est pas le cas puisqu'on ajoute.
Au niveau mondial, on ajoute. Maintenant, ce qui va se passer dans certains pays, et je pense qu'il faut faire varier les échelles, c'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est de regarder du global au local en passant par l'échelle nationale. Et là, on voit des transitions qui ont été opérées, notamment dans le secteur électrique, mais aussi dans d'autres secteurs. Je prends l'exemple de la Suède, par exemple, qui a largement décarboné le secteur du chauffage avec des transitions assez radicales. La France, qui a décarboné très largement son électricité. Donc, il faut aussi regarder les choses au niveau national. Cela étant dit, au niveau mondial, on est encore dans cette addition, et notamment du fait d'acteurs comme la Chine, qui aujourd'hui est à la fois le plus gros producteur d'énergie renouvelable et le plus gros consommateur de charbon.
Ça, c'est pour la dimension énergie du livre. Mais le livre s'appelle « Énergie et inégalité ». En quoi la transition que vous appelez de vos voeux, et que peut-être beaucoup de climatologues appellent aussi leurs voeux, et j'espère beaucoup de politiques aussi, est de nature à réduire les inégalités ? Expliquez-nous le lien.
Alors, elle peut réduire les inégalités comme elle peut les exacerber. Et donc, ce qu'on observe, c'est des signaux faibles, mais c'est des signaux auxquels il faut s'intéresser. Les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, se mettent à investir dans le nucléaire pour nourrir leurs centres de données, très voraces en énergie. On a vu Bill Gates qui a posé la première pierre d'une centrale nucléaire dans l'Ouest, dans un désert de l'Ouest américain. Lui, son objectif, c'est de sauver le monde avec du nucléaire. On a vu les géants de la tech investir dans des centrales nucléaires pour préempter et quelque part privatiser une partie du secteur électrique américain avec une montée des prix de l'électricité très importante, plus 20% sur les prix pour les usagers aux États-Unis. Et donc là, Moi, je ne vois pas particulièrement de réduction des inégalités, je vois plutôt une poursuite de la concentration extrême des richesses. Mais on peut aller vers d'autres chemins de transition. Et c'est là que le passage par l'histoire, il est intéressant, puisque en réalité, les pays démocratiques ont toujours débattu de la question du contrôle et de la propriété de l'énergie. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a une question fondamentale qui est qui capte la rente énergétique ? L'énergie, c'est un bien essentiel, donc tout le monde en a besoin. Les usagers, les entreprises, les sociétés complexes ont besoin d'énergie. Et par conséquent, la nature centrale de ce bien-là fait que ceux qui vont contrôler sa production, sa distribution, vont pouvoir extraire une rente. Et ça, on le voit en fait à travers toute l'histoire de l'énergie. Et plus particulièrement depuis deux siècles, on voit des multinationales, on voit des États, des communes, des coopératives, vous en parliez tout à l'heure, qui vont entrer en conflit pour essayer de capter cette rente. Et en France, en 1946, eh bien, c'est l'État, c'est la puissance publique qui dit « Le secteur privé n'est pas apte à piloter l'industrie telle qu'on souhaiterait la piloter pour reconstruire. Le secteur privé n'est pas apte à générer des tarifs corrects pour les usagers, donc à réduire les inégalités d'accès à l'énergie. Et donc, on va reprendre le contrôle de cette énergie. » En fait, ça, on va le voir aux États-Unis avec Roosevelt, on va le voir en Suède avec les sociodémocrates, on va le voir en Inde, on va le voir en Angleterre. Et donc, cette histoire complexe de transfert du secteur public au secteur privé ou en sens inverse, c'est ça qui a rythmé les débats démocratiques mais aussi les débats énergétiques depuis deux siècles.
Et c'est très intéressant effectivement de lier, la corrélation est importante entre cette reprise en charge par l'État de l'énergie et cette grande période de 30 glorieuses qui est à la fois de la croissance mais aussi une période de réduction en effet des inégalités. Natacha.
Oui, cette question du rôle de la puissance publique est vraiment au cœur du livre. On pourrait d'ailleurs citer, en fait c'est une sorte de lutte entre les intérêts privés et les intérêts collectifs, avec des exemples assez amusants comme la possession des tramways dans certaines villes américaines. Vous pourrez peut-être en dire un mot, mais ma question du coup se porte plutôt sur le modèle chinois que vous évoquez à un moment donné. Pourquoi ? Parce que vous nous expliquez que le développement de l'industrie du renouvelable en Chine, elle est fondée sur une forme qui ressemble finalement à de l'économie mixte, qui comporte de la planification, une forme de protectionnisme, puisque vous soulignez que la Chine a par ailleurs bénéficié, je vous cite, de financements internationaux et s'est assurée que ces fonds ne serviraient pas à financer des entreprises étrangères opérant sur son sol. Bref, il y a là un travail extrêmement précis sur la préservation des intérêts nationaux.
Lucas Chancel.
Et on a l'impression que visiblement, du côté européen par exemple, on a beaucoup de mal à concevoir
oui,
ça.
Et c'est paradoxal, puisqu'en réalité, la Chine s'est inspirée du cocktail politique et industriel mis en œuvre dans les économies mixtes dans la seconde partie du XXe siècle, je pense à l'Europe et aux États-Unis. Et c'est ça un peu le paradoxe, c'est-à-dire que les Européens sont toujours aujourd'hui dans cette espèce de fable consistant à dire que c'est à travers une concurrence libre et non faussée qu'on va réussir à régler les problèmes contemporains, on va créer des marchés de l'énergie, on va créer des marchés d'échange de droits à polluer.
Parce que les prix vont baisser.
Les prix vont baisser, on va se méfier des aides d'État, on va se méfier de toute tentative de planification industrielle. Bon, au final, qu'est-ce que ça fait en Europe ? Northvolt, qui est le fleuron de l'industrie européenne de la batterie jusqu'à la fin de l'année dernière, se casse la figure en mars 2025 et en partie racheté par une start-up américaine qui s'appelle Leighton. Donc bilan, la plus grande usine de production de batteries européenne passe sous pavillon étranger. Là, il y a un réel enjeu de souveraineté qui, en mon sens, n'a pas été traité.
Qu'aurait-il fallu faire ?
Eh bien, par exemple, on aurait pu avoir un club de pays européens qui disent « Mais en fait, l'enjeu est tellement important qu'on va entrer au capital de cette entreprise. » Et il semblerait que des choix financiers, des choix techniques qui n'étaient pas forcément les bons aient été faits par cette entreprise. Mais si on prend un peu de recul, quand les Européens ont créé Airbus, ils sont entrés au capital d'Airbus. Ça a été compliqué au début. Dans les années 70, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes on n'arrive pas à trouver des commandes pour les Airbus. Et au final, c'est une réussite industrielle. Et donc, on peut se nourrir de cette histoire-là. Et c'est ça, encore une fois, pour revenir sur le cas de la Chine, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire que les Chinois mettent en œuvre eh bien, des subventions, des crédits à taux préférentiel, une planification avec des objectifs très clairs, créer des clusters industriels, c'est ce que les Européens ont fait dans le secteur de l'énergie pendant des décennies dans la seconde partie du XXe siècle.
Mais l'Europe communautaire l'avait déjà compris, ça. Pardon, mais le début de la construction européenne, c'est la CECA, sur le charbon et l'acier, le charbon. Et puis, il y a eu Euratom, quelques années plus tard, avec Jean Monnet, enfin, dirigé par Jean Monnet. Les Européens avait senti, malgré le cadre libéral, que la question de la souveraineté énergétique et de la mise en commun, peut-être aussi des ressources, était fondamentale pour l'avenir.
Oui, et donc je pense qu'il faut revenir à cette vision peu historique et de départ, et peut-être repenser certains cadres qui, aujourd'hui, sont assez mal connectés à la réalité. Typiquement, il y a un litige entre l'État français et la Commission européenne sur la question des barrages. Les barrages sont des actifs publics, c'est-à-dire propriété collective des Français. Et ces barrages devraient être mis en concurrence selon le droit européen pour entrer exactement pour qu'il y ait une compatibilité avec le marché. Mais comme vous dites, il y a une forme de contradiction dans les termes, puisqu'il s'agit là, du point de vue de l'économie, de monopole naturel, c'est-à-dire on ne peut pas mettre deux barrages l'un côté de l'autre, les mettre en concurrence, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on est en train d'essayer de penser des cas juridiques très complexes pour faire rentrer une réalité qui, en réalité, ne correspond pas
au monde
cadre
réel,
et au dogme de cette mise en concurrence.
Gilles.
L'une des, je crois, des apports vraiment importants de votre livre est l'accent qui est mis sur les modes de propriété, l'importance des modes de propriété en matière énergétique. Et vous soulignez au début l'importance des investissements en capitaux, des investissements massifs auxquels nous devons procéder pour réussir cette transition. Vous citez même un chiffre, et moi qui aime les chiffres, je dois dire que j'ai du mal à me le figurer, tellement il est spectaculaire, 220 milliers de milliards d'euros pour réussir la transition. Or, nous sommes dans un moment dans lequel il y a une très forte concentration du capital avec une concentration des richesses et des États qui sont dans beaucoup d'États, des États impécunieux parce qu'ils sont des États endettés. Comment fait-on
pour
traiter cette question des investissements aussi massifs, des modes de propriété et des États endettés?
Ah oui, comment on fait pour passer l'argent du privé vers le public?
Alors, Chancel. Là encore, s'intéresser à l'histoire est utile pour penser les problématiques contemporaines. Puisque quand les Britanniques, en 47, ou les Français, en 46, vont décider de nationaliser leur secteur énergétique et donc de piloter l'investissement dans une logique de justice sociale, eh bien, les indicateurs économiques sont dans le rouge. Les dettes publiques sont extrêmement élevées, le déficit britannique est extrêmement élevé, la dette publique française, le déficit du commerce extérieur français est extrêmement élevé. Et donc, je vais prendre l'exemple français, le ministère des Finances, à l'époque, ne veut pas de la nationalisation de DFGDF. Il dit, on n'a pas les moyens. Il y a une décision politique qui est faite, et il y a cette compréhension que, dans le cadre d'un projet de société, dans le cadre du pilotage de l'investissement, en fait, on va avoir besoin de cette nationalisation. Et donc, je pense qu'il faut peut-être un petit peu mettre en perspective la situation actuelle. Il y a un déficit en France qui est ce qu'il est, mais en réalité, les fondamentaux économiques du pays sont globalement bons. Et donc, se dire que parce que nous avons ces débats sur les déficits aujourd'hui, on ne peut pas penser à 20 ans, à 40 ans ou à 50 ans, la reprise de contrôle sur notre énergie, ou plus précisément, le fait de ne pas laisser à des acteurs comme les GAFAM, le futur énergétique de notre pays, je pense que c'est des questions tout à fait fondamentales que nous devrions nous poser.
On rappelle qu'à l'époque, on était dans un cadre de planification. Et en effet, la planification, c'est à moyen, voire à long terme. Natacha.
Oui, c'est surtout, est-ce que ce n'est pas une prophétie autoréalisatrice, le principe que vous décrivez? C'est-à-dire que, en fait, c'est parce que nous avons libéralisé dans le courant des années 1970 et ensuite dans la construction européenne, à travers l'acte unique, la libre circulation, que nous en arrivons à cette accumulation de richesses dans les mains de quelques-uns, alors que si on faisait le choix de la planification, on aurait sans doute moins de difficultés financières. Par exemple, le Total pourrait rapporter, au denier public. Et pour ce qui est de la destruction d'EDF, elle a été tentée à travers le projet Hercule par l'Union européenne, on voit qu'on est en train de détruire justement ce qui peut permettre de nous sortir un petit peu des difficultés.
Lucas Chancel.
L'un des cas étudiés dans l'ouvrage, pour illustrer ces enjeux-là, c'est le cas de la Norvège d'un côté et du Royaume-Uni de l'autre. Tous les deux découvrent des ressources de gaz en mer du Nord, mais avoir des stratégies extrêmement différentes pour capter la rente issue de la production de cette énergie. Le Royaume-Uni va totalement privatiser cette production, alors que la Norvège va décider de poursuivre cette production, cette exploitation sous contrôle public. Bilan. Aujourd'hui, le fonds souverain norvégien qui a capté cette rente énergétique est l'un des plus élevés au monde, plus de 2000 milliards d'euros de fonds souverains. Donc c'est une richesse pour chaque Norvégien de l'ordre de 200 000 euros par personne, par Norvégien aujourd'hui dans ce fonds souverain. Alors que l'État britannique a des dettes plus importantes que ses actifs, que son patrimoine. Et donc là, on voit des stratégies différentes. Et en démocratie, on a le droit et, en mon sens, on a le devoir de débattre de ces sujets-là. Or, il me semble que dans les débats sur la transition énergétique, on débat beaucoup de technologie contre technologie, c'est-à-dire diesel contre électrique, éolien contre renouvelable, et on débat assez peu de qui contrôle quoi, au service de quoi, et pour capter quel type de rente énergétique ?
Ben, je vous propose de changer d'échelle, d'aller à l'échelle très locale. Qui capte quoi ? Qu'est-ce qu'on fait de l'énergie ? On se rend à Aubé, dans le Gard, où des habitants ont transformé un terrain abandonné en parc solaire coopératif, extrait d'un reportage de France 3.
Le tissu associatif nous a apporté beaucoup, parce qu'on a connu des gens qui avaient les mêmes préoccupations et qui avaient envie de s'investir, et c'est tout un cheminement, quoi.
On sait d'où vient l'énergie, c'est de l'énergie renouvelable. On sait que c'est une coopérative proche de chez nous, on sait que ben, tout l'argent est réinvesti dans des parcs. Il n'y a pas d'argent qui peut aller à des administrateurs quelconques. Bref, le concept coopératif nous va très très bien.
Lucas Chancel, c'est un modèle ça, ou ça ne peut être qu'une exception à une échelle très locale, sachant que pour les gens, l'énergie coûte un peu plus cher que celle produite par EDF par exemple.
Alors, c'est un modèle qui est intéressant et si on regarde dans le XXe siècle, en réalité, les États-Unis vont développer ce modèle dès les années 30. Roosevelt se méfie des producteurs privés d'énergie. Il dit qu'ils pratiquent des tarifs prohibitifs, il critique leur trait maléfique. Il va vouloir passer l'énergie sous contrôle public, il ne va pas arriver à fédéraliser tout ça, il va créer la Tennessee Valley Authority, un grand barrage, mais il va aussi pousser les coopératives et à l'époque, il s'inspire de ce qui se passe en Europe notamment, et notamment en Suède. Et il dit, je vais pousser les coopératives énergétiques. Aujourd'hui, ces coopératives sont assez largement réparties sur le territoire américain. Il y a à peu près 8% de la production électrique aux États-Unis qui est produite par des coopératives, c'est pas rien, c'est intéressant. Il va aussi pousser la municipalisation de l'énergie, c'est une autre manière de remettre le contrôle de l'énergie au niveau local, et ça fonctionne plutôt bien. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a différentes échelles possibles pour contrôler l'énergie. Cette échelle coopérative, comme cette échelle municipale, me semble extrêmement intéressante, et je voulais peut-être citer un autre exemple, c'est celui de la municipalisation de l'énergie en Suède. C'est-à-dire que ce sont des communes qui investissent dans des petites centrales, qui peuvent produire de la chaleur, par exemple en recyclant de la chaleur générée par une industrie. Cette chaleur va passer dans des tuyaux et va ensuite alimenter les habitations et les commerces. Et l'important ici, c'est que dans les années 60, la Suède se chauffe essentiellement au fioul. Et une décision politique qui va donner des mandats aux communes pour faire ces choix d'investissement et pour créer une sorte de social-démocratie municipale de l'énergie qui réussit. Et ici, la leçon que moi j'en tire, c'est que si on veut transformer les usages, si on veut demander aux gens de passer d'un mode de vie carboné à un mode de vie décarboné, il faut d'abord investir massivement. Il faut leur donner les capacités d'agir, de se transformer. On ne peut pas demander aux consommateurs tout seuls, bon bah maintenant, débrouillez-vous, on va mettre une taxe carbone. On va changer les prix de l'énergie et puis vous allez vous débrouiller. Les Suédois nous montrent que le chemin à faire, c'est d'abord un chemin d'investissement massif dans l'infrastructure. Et ces choix, on peut les faire. Encore une fois, ça demande une vision politique, ça demande tout un ensemble de transformations législatives et fiscales et d'investissements. Mais la richesse de cette histoire de l'énergie que j'essaie d'analyser dans ce livre nous montre que tout ça est possible.
Une dernière toute petite question peut-être, Natacha ? Il nous reste quelques secondes juste.
C'est que dans le cadre mondial actuel où on a pour fabriquer par exemple des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, besoin de matériaux qui ne sont pas forcément sur le sol européen. Comment on fait coïncider votre théorie avec la prédation actuelle de la part des grands empires ?
Votre sens de la synthèse va nous être utile, Lucas Chancel. Une minute, même pas.
Alors, 98% de la consommation de terres rares de l'Union européenne vient de la Chine. Et on a besoin notamment de terres rares pour produire ces technologies. La première réponse, c'est le besoin de sobriété. C'est-à-dire qu'on a besoin de consommer moins. Mais on peut aussi produire des matériaux critiques sur le sol européen. Et enfin, on peut nouer des partenariats avec d'autres régions du monde.
Merci beaucoup, Lucas Chancel. On lira Énergie et inégalité, une histoire politique au seuil. Merci à Marie Merrier pour la réalisation. Merci à toute l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde de Clat, Gilles et Natacha, bien sûr. Aujourd'hui, Julien Thévenot était à la technique de cette émission que vous pouvez écouter en podcast. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour les premiers épisodes de Djihadisme, anatomie d'une menace avec Hugo Micheron. Vous pouvez aussi déjà l'écouter sur l'appli Radio France. Et après le journal de 13h, vous retrouverez bien sûr Pierre Judet de la Combe. Bonjour Pierre, de quoi parlons-nous aujourd'hui ?
Bonjour Thomas. Aujourd'hui, nous allons parler du roi ruiné, Crésus, pauvre comme Crésus.